moi je suis très contente d'être là, puisque effectivement, et d'être auprès de Jean-Michel qui va nous parler de quelque chose de, à mon avis, de très très important, c'est la tolérance. Alors bien d'abord, merci hein, à vous aussi d'être là, merci d'être venu malgré ce vilain temps, merci à Jean-Michel d'être présent, merci aussi au centre, au passage Sainte-Croix, vous croyez?
Enregistré.
Ah, mais pas moi, non, moi ce que je dis n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est de dire soyez les bienvenus, bien entendu. Alors, effectivement, bien, le passage Sainte-Croix, nous l'avons fait en partenariat. Il y a quelques mois, nous avions demandé à Jean-Michel, qui fait partie de notre groupe d'amitié judéo-chrétienne, s'il acceptait de nous faire une conférence, et il a répondu oui. Et sur la tolérance, nous lui avons demandé, parce que je sais que Jean-Michel est, comme vous devez le savoir aussi, un spécialiste de John Locke, qui est un philosophe du 17e, c'est ça ? Du 17e, un philosophe anglais, qui a pas mal réfléchi sur la tolérance, et certainement que Jean-Michel va nous en dire un certain nombre de choses à ce sujet-là. Tolérance, je pense, d'un point de vue religieux, d'un point de vue politique aussi, il me semble. Donc, voilà. Et puis, bien, je trouve, moi, que... Bon, il y a un certain nombre de mois, on a posé cette demande, mais aujourd'hui, je trouve que parler de la tolérance actuellement, ces jours-ci, c'est quelque chose qui est... je dirais presque une gageure, parce que ce qui se passe sous nos yeux en Ukraine aujourd'hui, est-ce que l'on peut, d'ailleurs, je me suis posé la question, la tolérance, c'est quoi? Au fond, c'est d'arriver à vivre à peu près les uns avec les autres, on dirait en bonne intelligence, ou avec une certaine empathie, de manière à se supporter les uns et les autres. Mais la tolérance, quand on voit ce que fait M. Poutine auprès de gens qui... n'avait aucune agressivité à son égard, est-ce que l'on peut dire aussi, et ça c'est la question que je me suis posée, est-ce que la tolérance a des limites? Voilà. Alors c'est parce qu'effectivement, c'est vrai que nous sommes là dans un moment particulièrement, je dirais, sensible à cette question-là. Merci en tout cas Jean-Michel de nous faire réfléchir à tout ça, et puis ben, bonne soirée à tous.
Quand on veut faire un travail de réflexion, de philosophie, il est intéressant que les questions soient un peu réfléchies. Et j'aimerais bien que vous prépariez vos questions. Est-ce que ça vous ennuierait de réfléchir une minute avant? Je crois que c'est la meilleure solution, parce que si vous réfléchissez après vos questions, vous risquez d'être influencé par ce que je dirai. Est-ce que vous accepteriez pendant une minute de... Si vous avez un papier, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, vous avez dans votre tête la possibilité d'y réfléchir deux minutes. Au nom de quoi peut-on tolérer les autres? Au nom de quoi? C'est au nom, c'est l'indication philosophique. Est-ce que vous pourriez essayer de dire votre position là-dessus? Au nom de quoi peut-on tolérer la religion d'un autre? Les positions d'un autre. Mon but, c'est que vous ayez déjà votre point de vue fait, délimité, avant que je n'entame mon topo, de façon à ce que vous puissiez faire surgir plus facilement vos questions en voyant la différence entre ce que vous avez imaginé, vous, et ce que je dirai. Merci. Bien, je vous propose de vous donner mes propositions de façon à ce que dans un deuxième temps, vous ayez la possibilité aussi de réagir. J'essaierai de penser à projeter successivement le plan de ce que je dirai de façon à ce que, si vous vous endormez 30 secondes, à cette heure-ci c'est normal, vous puissiez savoir ce que vous avez perdu et là où on en est. La tolérance, ça me semble une notion extrêmement floue. C'est pas du tout, comme on dit en termes techniques de philosophe, un concept. Ça recouvre énormément de choses. Et notamment, ça recouvre quelque chose de très différent actuellement et au XVIIe, XVIIIe siècle où la notion a été favorisée. Et je pense que c'est la différence de ces deux époques qui fait problème. Je trouve qu'à un moment, on en faisait une notion purement politique, au XVIIe ou au XVIIIe, alors que maintenant, on en fait une dimension purement morale, purement individuelle. Et je crois que les deux positions sont, d'une certaine manière, erronées ou contradictoires. Et je crois que c'est dans la prise en compte de la tension entre une structuration politique de la tolérance et une attitude individuelle et sociale, si vous admettez une différence entre le politique et le social. C'est pas exactement la même chose. Le politique, c'est l'organisation du social. Mais admettons que le politique et le social ne sont pas exactement la même chose, je dirais que la position individuelle et sociale de la tolérance, qui est trop valorisée maintenant, à elle seule, doit être liée, me semble-t-il, à ce qui était pensé au XVIIIe au XVIIe au XVIIIe siècle, la dimension politique. Voilà en gros la thèse que je vais défendre, si vous voulez, d'emblée, et vous savez déjà ce que vous pouvez critiquer. En effet, actuellement, tolérer, c'est, on utilise le mot synonyme que je n'aime pas beaucoup, mais oh, je respecte tes opinions. C'est un petit peu le même type d'énoncé. Cause toujours, je ne t'agresserai pas. Ce que tu me dis, finalement, m'est indifférent. Mais tu as le droit de le penser, tu as des raisons de le penser, tes raisons, finalement, ne m'intéressent pas. La tolérance est une attitude individuelle où on ne s'intéresse pas aux raisons de l'autre de penser ce qu'il pense. Et on le tolère. Et c'est purement individuel. Ça implique une supériorité. Je sais ce que je pense, j'ai mes raisons de penser, mais je ne daigne même pas aborder avec toi la discussion sur mes raisons de penser parce que ça n'en vaut pas la peine. Si vraiment je t'estimais et si vraiment j'accordais du poids à ce que tu penses, j'essaierais d'entrer en discussion avec toi pour essayer de te convaincre. Mais je sais que c'est peine perdue, je me contente de tolérer et de respecter ce que tu dis. Ça suppose qu'il n'y a pas d'organisation sociale et politique là derrière, ce ne sont que des attitudes individuelles qu'il faut qu'on admet, parce qu'il faut bien admettre que des autres aient des idées farfelues, que d'autres pensent comme cela, et ça me permet, moi, de penser et de rester sur mes positions et de penser ce que je pense. Ce n'est pas du tout le domaine de la discussion, qui est basé sur une certaine conception de la vérité que l'on cherche, dont on cherche à convaincre l'autre, ou dont on pense que l'autre est dans l'erreur. Ce n'est pas non plus une conception basée sur une citoyenneté organisée dans laquelle on essaie de penser à peu près en discutant ensemble. C'est un domaine de la juxtaposition d'individus où on s'estime moral parce qu'on n'agresse pas l'autre en le laissant là où il en pense. La position du 16e, du 17e, mais j'aurais dû mettre du 18e aussi, est radicalement différente, car c'est la position dominante de la politique qui était en jeu à ce moment-là. Ce qui faisait difficulté, c'était les guerres de religion. Ce qui faisait difficulté, c'était la persécution. Ce qui faisait difficulté, c'est la naissance des nations, et de nations qui étaient identifiées à des religions. Et il fallait tolérer dans une nation à une dominante religieuse, qu'une autre, que des sous-groupes, que des minorités, il fallait accepter que ces minorités puissent pratiquer leur religion, puissent penser autrement. Il y avait donc la recherche d'une cohésion politique et l'admission de certaines façons de penser autres que la position de la majorité. cette façon de penser n'est plus du tout la nôtre actuellement, sauf peut-être justement, peut-être en Ukraine, peut-être dans des pays où il y a ces clivages qui existent encore. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de pays autour de la zone européenne qui sont dans ces problématiques-là et qui pensent les termes de la tolérance, qui ont besoin de penser en termes de tolérance, parce qu'ils sont encore dans des contextes de religion dominante et de religion dans lesquelles la nation et la religion ont des parentés qui font que cela amène à penser une position pour les minorités. Mais ce n'est pas une question morale, c'est une question politique, à la différence de ce qui est qu'on sait actuellement. Partant de là, je voudrais dans un premier temps m'inspirer de ces positions du XVIe et du XVIIe ou du XVIIIe siècle pour essayer de penser un peu, de vous suggérer quelques positions actuelles que j'aborderai dans un troisième temps. Je les ai classées en termes non pas historiques. Vous avez un très bon bouquin de Dominique Avon qui sera là dimanche prochain, samedi prochain, pardon, sur la liberté de conscience et qui traite uniquement de l'historique, ou qui traite principalement de l'historique de cette question. Ce n'est pas du tout l'aspect historique que j'aborderai. Je ne suis qu'un philosophe, j'oublie complètement, je n'ai plus aucune mémoire vu mon âge. Et je ne me lancerai pas dans des considérations historiques. Je me préfère, c'est bien plus rébarbatif, m'arrêter à des questions d'arguments. Chaque fois, je prendrai les arguments en faveur de telle et telle position que j'ai, pour lesquels je m'inspire de Locke, mais aussi, je montrerai tout à l'heure les titres des ouvrages de Bell, Pierre Bell, qui est un auteur malheureusement trop ignoré, et de Voltaire, qui est beaucoup plus connu. Il a eu un regain de gloire à l'occasion des derniers événements qui se sont passés en France autour du journal de Charlie Hebdo ou du professeur d'histoire, etc. Il y a eu un regain d'édition de la liberté de conscience, de la liberté de l'être et la tolérance de Voltaire à l'occasion de ces événements-là. Je prendrai donc les arguments de l'intolérance à cette époque-là, avec des transpositions contemporaines, les arguments de la tolérance, au contraire, avec des transpositions contemporaines, je ne me baserai pas uniquement sur l'époque, et j'essaierai avec vous d'en tirer un certain nombre de leçons. Donc, les arguments de l'intolérance. Je les ai classés en deux parties, au bénéfice des églises d'abord. Que donnait-on comme argument au bénéfice des églises? Et je crois que le premier argument, j'y reviendrai plusieurs fois, c'est que rien n'est indifférent pour le sacré. Tout est sacré dans la vie. Et à partir du moment où vous dites que tout est sacré, où rien n'est absolument temporel, tout a une dimension spirituelle, tout engage, éventuellement s'il y a une immortalité, tout acte humain engage l'immortalité, et donc c'est bien à l'Église, au pouvoir religieux, de définir ce qui est à faire dans le monde contemporain. Le deuxième argument, le pouvoir politique, lui, ne vise que des buts terrestres. Ces buts terrestres sont purement passagers, sont purement temporaires, et seul le religieux peut définir ce qui a validité éternelle, ou au moins ce qui a validité pour un monde plus valable, et donc seul le religieux a le pouvoir de définir ce qui est acceptable, et doit dicter au pouvoir politique ce qui est à accepter et ce qui est à refuser. Le religieux commande le bras séculier. Il y a domination du religieux sur le séculier. La conscience, en troisième argument, la conscience prime sur toute autre obligation. On reviendra plusieurs fois sur cette question de la conscience, et effectivement, on sera amené à affirmer que la conscience individuelle est le critère ultime de tout engagement. Et à ce titre-là, puisque la conscience est la dernière obligation ultime, le politique ne peut pas contredire la conscience. Par contre, l'Église, elle, a pouvoir sur les consciences. Et parce qu'il a pouvoir sur les consciences, il a la priorité dans l'ensemble des domaines. C'est l'Église qui doit dicter au champ du politique ce que les consciences ont à accepter, ont à penser valable. Quatrième et dernier argument, c'est l'argument qui a été le plus défendu, seule la vérité a des droits. Et l'erreur, qui normalement ne devrait pas exister, n'a aucun droit. C'est l'argument que Bossuet avait utilisé. Et ensuite, c'est manquer de charité envers son prochain que de le laisser dans l'erreur. Il faut donc l'amener à penser correctement et l'amener à penser à la vérité et demander au pouvoir politique de ramener à la vérité celui qui pense pas. Vous souriez, mais vous sentez bien que c'était déjà vrai du temps de Bossuet, c'est encore vrai dans un certain nombre de pays de notre temps. Ce n'est pas du tout quelque chose de purement spéculatif. Et ça a été dit au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais c'est encore tout à fait actualité. Il était courant d'invoquer le chapitre 14 de Luc, que saint Augustin avait repris. Le Seigneur dit à ses serviteurs, allez, c'est au moment où le banquet offert aux convives, les convives ne viennent pas, et il faut remplir la salle, et donc on dit aux serviteurs, allez sur les sentiers et sur les carrefours, et forcez-les à entrer pour combler la salle. Et à partir de cette affirmation, contraint-les d'entrer, forcez-les d'entrer, il y a eu toute une spéculation théologique qui a été travaillée pour fonder l'obligation de convaincre et de faire appel au bras politique pour faire entrer les croyants dans la vérité. La charité chrétienne, ou la charité, ou l'amour d'autrui, ou la pitié pour les autres, implique que l'on travaille pour leur salut dès à présent, quitte à utiliser les bras du populaire. Voilà quatre arguments qui me semblent être, pas tous énoncés, mais qui me semblent assez, qui ont été utilisés de façon la plus fréquente pour défendre l'intolérance au bénéfice de la religion qui utilise les pouvoirs de l'État. Quels sont maintenant les arguments au bénéfice de l'État? Le premier argument, celui qui a le plus été présenté, c'est que la vérité ne peut pas être dans le champ de la religion. La religion, c'est le domaine du sentiment. La religion, c'est le domaine de l'imagination. Mais la vie de tous les jours, la vie humaine, la vie sociale notamment, a des lois que la religion ne perçoit pas, ne prend pas en compte. Et c'est dans la réalité des jeux politiques, dans la réalité des jeux de force, que se trouve la véritable destinée des gens. Si on veut prendre au sérieux la vie des personnes, il faut une compétence politique qui prend en compte le jeu des pouvoirs à l'intérieur de la société. C'est donc le souverain seul, qu'il soit monarque ou démocratique éventuellement, c'est lui qui doit réguler les passions, c'est lui qui doit prendre les lois pour instaurer la paix civile à l'intérieur de la société. Tant mieux s'il y a des religions qui vont dans son sens, tant mieux s'il y a des religions qui vont par l'imaginaire, qui rejoignent les positions de l'État, mais c'est, j'allais presque dire, c'est par hasard. Si j'avais affaire à des étudiants, je leur dirais, je vous ai développé en 30 secondes la pensée de Spinoza ou la pensée de Hegel, pour lesquels la religion, ce sont des succès d'années de la pensée correcte, de la pensée rationnelle, mais seul le souverain doit avoir une pensée rationnelle qui joue sur les désirs, qui joue sur les passions, qui joue sur les déterminismes qui seuls peuvent agir dans les gens. Deuxième conception qui est peut-être encore plus actuel, le contrat social qui institue la société est le seul moyen d'assurer la société civile et de réduire la peur et de construire une vie commune. Ce contrat social doit donner le pouvoir à un souverain, à quelqu'un qui a l'ensemble des manettes en main, parce que le pouvoir ne peut pas se diviser. Si le pouvoir était divisé entre une église, notamment, et un pouvoir politique, ce ne serait plus un pouvoir. Il n'y a de pouvoir que quelqu'un qui peut radicalement décider. demander à Poutine actuellement de diviser son pouvoir entre, au moment où une armée est sur le terrain, c'est entrer dans les hésitations, entrer dans les tergiversations, et c'est aller à la faillite. C'est vrai, de tout moment difficile, il faut que le pouvoir soit aux mains d'un seul, au moins du politique, et les contestations religieuses n'ont pas lieu d'être. Le politique serait affaibli s'il était divisé entre des religions diverses et même entre des mains de religions qui ne travaillent que dans le champ de l'imaginaire. Je vous ai dit en deux mots la thèse de Hobbes, hein, pour laquelle la société effectivement doit assurer la sécurité, au point même que pour Hobbes, le souverain est celui qui dictera les livres saints qui ont autorité, qui peuvent être prises en compte dans les religions, etc. Troisième position, le souverain politique a affaire aux discordes religieuses. C'est même sa première fonction. La majeure partie des États ont affaire à des multiplicités de tendances religieuses, et seul un souverain peut faire l'unité d'un corps social. Si vous laissez le pouvoir aux religions, vous entrerez dans le cycle des guerres religieuses. Et seul quelqu'un qui a en préoccupation le bien-être, la définition d'un bien commun à des religions différentes, doit avoir le pouvoir de gouverner. Voltaire est évidemment dans toutes les têtes de ce point de vue-là. La multiplicité des religions est la source de toutes les guerres. Et je pense qu'on pourrait encore garder son affirmation. Il vaut mieux s'unir autour d'une politique, même si cette politique est erronée, partisane, partielle, incomplète, mais au moins un chef d'État assurera la paix civile là où il est responsable. Alors que laisser aux religions le pouvoir de décider, c'est entrer dans ce qui au XVIe et au XVIIe était le cas le plus fréquent et ce qui peut être encore autour de nous assez fréquent. Enfin, dernier argument, seul le pouvoir politique peut utiliser de la contrainte, peut utiliser la loi. Le domaine religieux relève de la conviction, ou relève de la persuasion, et non pas de la force. Dès que la force est utilisée dans la religion, il se dénature, la religion n'est plus ce qu'elle est, on retrouvera cet argument plus tard. Le domaine de la loi, c'est le domaine du politique. Et donc la religion n'a pas à s'introduire dans le domaine du politique. J'ai essayé de faire le tour des différents arguments pour l'intolérance en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Avant d'aborder le thème de la tolérance proprement dite, je vous fais un tout petit excursus historique. Les ouvrages qui ont été au XVIIe et au XVIIIe les plus utilisés et qui ont manifesté l'importance de cette question de la tolérance, il y a eu toute une efflorescence d'ouvrages qui sont sortis à l'époque, ce qui marque bien l'exigence d'introduire cette problématique. Les premiers ont été ceux de, ou les plus importants, et les plus importants ont été ceux de Locke, qui ne sont pas forcément les plus connus. Le deuxième, Pierre Bell n'est pas très connu, si ce n'est peut-être par son commentaire de 1686, qui reprend la phrase d'Augustin et de Luc dont je parlais, commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contraint d'entrer, où il entre en guerre, entrant en lutte contre cette façon de présenter les choses. Et le plus célèbre, c'est évidemment le traité de Voltaire, le traité sur la tolérance en 1763, mais qui est loin d'être le premier, j'allais dire aussi qui est loin d'être le plus profond. Il prend l'affaire Calas comme point de départ, affaire atroce, et il reprend tous les arguments qui avaient été élaborés en milieu anglo-saxon ou en milieu hollandais autour de la tolérance. Alors, J'ai fait l'impasse sur tout l'historique. Il faudrait, pour bien comprendre les choses, aller dans le détail historique. Mais il faudrait voir que Locke étant dans un pays de tendance anglicane, mais avec une forte tentation catholique, et qu'il redoute, avec tout son pays, l'emprise du catholicisme que les Stuarts essayent d'implanter avec l'appui de la France et l'appui de Rome, bien sûr. Et il essaye de trouver une place pour le catholicisme qui ne soit pas une place d'exclusivité. Pierre Bell est un protestant aussi qui a fui, qui a été persécuté quand il était dans les Pyrénées, qui a fui à Sedan, qui a fui aux Pays-Bas finalement, et qui, des Pays-Bas, a publié une œuvre magnifique qui s'appelle le Dictionnaire historique et critique. Si vous avez l'occasion d'aller feuilleter ce dictionnaire en 5 volumes énormes, il aurait fallu le citer là, mais c'est un repère de plaidoyer en faveur de la tolérance sous couvert de critique historique. Et le commentaire contre l'Église catholique, la phrase catholique de contre aller d'entrée est un des musts de la théorie sur la conscience, la liberté de la conscience, un des textes fondamentaux. Petite excursus historique, je pense, enfin, vous deviez plus connaître peut-être l'ouvrage de Voltaire, mais les autres sont sans doute relativement inconnus. J'en viens donc à partir des textes qu'ils ont écrits aux arguments en faveur de la tolérance. Et le premier argument qui a été défendu et qui est le plus évident et qui demeure constamment, si vous pouvez garder à l'esprit la contemporanéité de ces arguments, qu'ils sont, me semble-t-il, pour beaucoup toujours valables. La séparation de l'Église et de l'État, c'est une exigence de fait d'abord. Je ne reviens pas sur ce par quoi j'ai conclu tout à l'heure avec Voltaire. Les guerres de religion sont une calamité à l'époque, elles le sont encore actuellement, et cette calamité exige qu'il y ait une tolérance, exige qu'il y ait une séparation entre un pouvoir politique et un pouvoir religieux, tel que le pouvoir religieux ne dicte pas au pouvoir politique les positions divergentes et qu'on laisse au pouvoir politique le choix de s'orienter sur le bien commun et non pas sur des définitions religieuses des fins dernières, des buts ultimes de la vie. C'était l'affaire Callas. C'est pour cette raison-là, je l'avais noté, je m'en voudrais d'exprimer que tout ce qui est blasphème, tout ce qui est ce sont des questions religieuses et ne devraient pas être des questions d'État. Deuxième affirmation, si les États avaient un pouvoir religieux, la multiplicité des États impliquerait une multiplicité des religions. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir actuellement, les différentes conceptions de l'islam, les différentes conceptions du catholicisme à travers le monde, quand elles sont reprises par des États, impliquent des différentes façons de concevoir la religion et différentes façons de la pratiquer. Si on confond le pouvoir politique et le pouvoir religieux, on entre dans une multiplicité de croyances religieuses et ça impliquerait qu'il y ait différents saluts, différentes façons de se sauver, différentes façons de réaliser son paradis, ce qui est absolument contradictoire. Il ne peut pas y avoir de multiplicité des voies dépendantes du politique. Troisième argument, qui est un argument qui valait autrefois, mais qui vaut encore peut-être actuellement, la prospérité du commerce. Les Pays-Bas, qui étaient le pays du commerce, était aussi le pays de la tolérance. Et tous les pays dans lesquels il y a eu un commerce qui a été prospère, qui s'est imposé aux gens, aux personnes, ont été les pays qui ont été les plus ouverts à la tolérance. Il y a donc le fait qu'il y ait une orientation politique ouverte, démocratique, pourrait-on dire, ou presque, est liée à une conception de la multiplicité possible des religions et une tolérance. Une tolérance, j'allais dire démocratique, si le mot pouvait avoir un sens, va de pair avec une tolérance religieuse. Deuxième argument pour la séparation de l'Église et de l'État, c'est que, deuxième argument, il y a, je l'avais déjà cité cette donnée en commençant, il est nécessaire d'admettre qu'il y ait des choses indifférentes. L'expression grecque était utilisée, les adiaphora, au XVIIIe siècle, des choses sur lesquelles on n'a pas à se prononcer, que ce soit pour la religion ou que ce soit pour la politique. Il y a des actes qui, pour la religion, devraient être indifférents. Les relations amicales, alors ça peut varier selon les religions, et ça pose problème justement, que dans certaines religions, des choses ne soient pas indifférentes alors qu'elles le sont. Je vais citer des exemples, mais ça pose problème. L'alimentation, le vêtement, est-ce qu'il faudrait que ce soit indifférent? Mais est-ce que c'est indifférent partout? Ou pourquoi ce n'est pas indifférent? La cuisine, les amitiés entre les personnes, on pourrait allonger la liste. Il y a des religions qui imposent des comportements dans ces domaines-là. Si la totalité de la vie est prise par les exigences religieuses, si la religion ne considère pas que certaines attitudes sont indifférentes, on entre dans un domaine où la tolérance est impossible. Mais de même, et également aussi pour la religion, il y a une autre exigence qui me serait liée à l'indifférence, le jugement pratique doit être laissé à la conscience individuelle. Autant les religions peuvent énoncer des règles générales d'orientation, autant elles n'ont pas à se prononcer sur l'application de ces règles générales à telles et telles circonstances. Les personnes doivent être à même, en conscience, de juger le lien qu'elles mettent entre les principes religieux, les exigences religieuses et les applications concrètes qu'elles en font. Si les religions dictent la totalité des comportements, il n'y a plus aucune place pour la conscience, il n'y a plus aucune place pour la liberté, il n'y a plus aucune chose indifférente, me semble-t-il. Il en va de même pour le politique. Pour le politique, il doit y avoir des croyances, des actes qui ne concernent pas le politique. Il doit y avoir des trous dans la loi. Les zones de trous dans la loi sont fondamentales en démocratie. Si l'ensemble des comportements humains sont dictés par un règlement, par une loi, si aucune liberté n'est possible, il est impossible de vivre en démocratie. Il n'y a plus de liberté de conscience, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté de pensée. Il n'y a plus de distinction du privé et du public. Et dans le public même, ce serait introduire dans le public des choses qui sont tout à fait secondaires, comme je pourrais prendre les mêmes exemples, l'alimentation, le vêtement, l'ensemble des loisirs, les amitiés, la façon de se lier aux voisins, toutes choses qui seraient absolument tyranniques. Il est absolument nécessaire, pour qu'il y ait tolérance, qu'il y ait aussi bien dans le religieux que dans le politique des zones indifférentes, des zones laissées au libre choix, laissées à la détermination des prix. Troisième champ de distinction, la distinction de principe, mais qui repose sur qui ne peut exister que si les deux premières existent. Les deux premières existent. S'il y a déjà des présupposés, notamment, que des choses indifférentes existent. Il y a une distinction fondamentale entre le magistrat civil, le souverain. Magistrat civil, j'ai repris l'expression de Locke, j'aurais peut-être dû la remplacer par l'expression plus contemporaine, le, le souverain ou le chef, le roi, le président, le magistrat civil en tout cas, et le responsable religieux. Il y a une différence fondamentale, c'est que parce que le souverain n'est pas institué par Dieu, il n'est pas désigné par une intervention divine sur terre, par un sacre, mais il est institué par un contrat. Même si les consciences des citoyens, c'était ce que pensaient les gens du XVIIe ou XVIIIe, sont inspirées en conscience par Dieu, chacun, ils élisent, peut-être à partir de leur orientation de conscience, ils élisent un souverain. Et l'objectif du souverain est de défendre ce que je ne peux défendre seul. Conception libérale du pouvoir. C'est parce que je ne peux pas défendre seul ma propriété, ma sécurité, que je dois élire un souverain qui prend en charge ce que je ne peux pas prendre en charge seul. On a un peu le même raisonnement pour l'Europe actuellement. Chacun des États seuls ne peut pas fonctionner. Il faut donc élire un pouvoir qui assure la sécurité, qui assure la subsistance, etc., à une échelle plus élevée. Mais c'est une conception libérale. C'est-à-dire, ce qui est à l'origine, c'est le point de départ, c'est chacun des individus qui institue un souverain pour défendre ses intérêts. Vous avez une conception qui est plutôt social-démocrate. C'est pour donner forme à une société préexistante qu'on a besoin d'un organisateur, d'un souverain. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a déjà une société qui préexiste, il y a déjà une vie sociale. Ce n'est pas moi, individu, qui promeut un souverain, qui promeut un chef, mais c'est parce qu'il y a une vie sociale que nous avons besoin d'organiser, vous le voyez bien dans une association, vous le voyez bien dans toutes les autres vies sociales que vous avez, qu'il y a besoin de désigner un organisateur. Mais dans les deux cas, c'est pour défendre quelque chose, pour organiser quelque chose qui vient d'abord. Ce n'est pas du tout un pouvoir divin. Donc le champ de la compétence du magistrat civil est évidemment totalement différent du champ religieux. Le premier souci du souverain, c'est le bien commun, la sécurité, l'organisation du groupe. Alors que le responsable religieux, lui, assume l'existence d'une communauté qui a des buts, dont le but est indépendant à la lettre de chacune des réalités dans laquelle on vit. Soit parce que les fidèles se réunissent en une communauté, soit au contraire parce qu'ils sont appelés par un chef religieux à partager une communauté. Il y a une révélation qui précède, ou au contraire il y a des croyants qui se fédèrent dans une religion. Les deux peuvent exister selon les religions, mais en tout cas, le but est radicalement différent. Je pense que je n'ai pas la peine d'épiloguer beaucoup. La différence nous est devenue absolument évidente. La question, c'est qu'évidemment, il y a des interférences de fait à partir de cette distinction qui est purement théorique. Des intersections dans le culte, il faut que le culte ne contrevienne pas à la paix sociale. Interdiction de la haine, interdiction des asservissements individuels. On disait autrefois interdiction des sacrifices humains, mais interdiction de l'esclavage et de l'asservissement, c'est toujours d'actualité. Mais l'État ne peut pas interdire, à cause de la division, des attitudes blasphématoires, des attitudes idolâtriques ou des attitudes qui seraient jugées pécheurs. Il n'y a pas de notion de péché à l'intérieur de la communauté. Il ne devrait pas y en avoir, le mensonge, le parjure, etc. C'est même tellement vrai qu'un des auteurs du XVIIe disait au contraire. C'est l'avarice des individus qui fait le bien-être de la société. La fable des abeilles de Mandeville. C'est parce que chacun cherche son intérêt que la société qui est constituée de ces individus gagne en richesse. Et donc si on laissait parler à la religion, qui dénonce l'avarice, il n'y aurait plus de société politique vivace. La pratique est évidemment aussi un lieu d'interférence entre le public, entre le religieux et le civil. Il y a une masse d'interférences. La seule condition, c'est de distinguer l'aspect critique de la religion, qui doit rester dans son aspect critique, et l'aspect constructif du politique. C'est aux politiques de proposer un bien commun, et c'est à l'aspect religieux de critiquer les dimensions du bien commun qui ne conviennent pas à ce qui existe de ce point de vue. Le dogme doit être normalement indifférent aux politiques. Il n'y a normalement pas d'interférence. Et Bell allait jusqu'à dire que les dogmes sont des réalités qui n'ont aucune influence dans la pratique des hommes religieux. Et donc l'État peut être complètement indifférent, peut laisser faire, laisser croire à n'importe quel dogme. De toute façon, ces dogmes n'ont aucune influence sur la pratique des gens. C'est une position sceptique que Bell a et que beaucoup de nos contemporains ont aussi. Croyez à la Trinité, croyez en un seul Dieu, peu importe. De toute façon, c'est à vos comportements c'est dans vos comportements qu'importe la réalité. Enfin, la conscience individuelle, qui est aussi un lieu d'interférence entre le politique et le religieux. On a tous en tête l'objection de conscience concernant la guerre d'Algérie, concernant les guerres, par exemple. Comment maîtriser cette dualité? Il n'y a pas de règles qui puissent être énoncées permettant... je conclue sur ce point et qui me permettra d'arriver rapidement au troisième et dernier point. Il y a des distinctions de principe et je pense qu'elles sont fondamentales. Les guerres de religion exigent, ou les divisions entre les religions exigent qu'il y ait une institution humaine en charge du bien commun sur un même territoire. Et ça ne peut pas être conféré aux religions. Le présupposé fondamental, c'est qu'il y a des points indifférents à chacun. Et que donc il y a un jeu pour chacun des deux pouvoirs. Ces deux pouvoirs sont différenciés, mais il y a de multiples interférences qu'il faut régler. La question est de savoir comment régler ces interférences, au nom de quoi. J'en viens à ces derniers points. Je vais passer, si vous voulez, sur ces points qui ont... Je vais passer trop vite. Je vais passer rapidement sur ces points, car là, j'ai peut-être trop parlé sur tout ce qui a précédé. Les arguments en faveur de la tolérance qui ont été donnés également portent sur l'incertitude dogmatique. C'est surtout Pierre Bell, le sceptique, qui les a énoncés, mais c'est encore très vrai actuellement. Il y a de multiples dogmes dont on ne peut pas décider quels sont les vrais, quels sont les faux. L'intelligence ne peut pas être une question de salut. Et Dieu, là c'est un argument théologique, Dieu n'a pas pu laisser reposer le salut des gens sur leur compréhension. Il faut que l'homme simple puisse être sauvé comme l'homme intellectuel. Et ce n'est donc pas dans la mesure où l'on comprend des dogmes que l'on est bon croyant. Et donc la compréhension théorique ne peut pas être une condition de salut. Il faut tolérer tous les dogmes, du point de vue même de la religion. Et enfin, il faut distinguer fondamentalement des niveaux de savoir, ce qu'on peut prouver, qui est de l'ordre, on le disait beaucoup à l'époque, mais on le dit encore actuellement, la morale de base, sur laquelle tout le monde est d'accord. On appelait autrefois la religion naturelle. Ça regroupe un peu la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Il y a un certain nombre de règles que tout le monde acceptera et qui font le lot commun de toutes les religions. Sur celles-là, on peut être dans une société exigeant pour que tout le monde la partage. D'autres ajoutent aussi la fiabilité des contrats, qui est une condition de la vie sociale, que des religions exigent, mais qui est aussi nécessaire et fondamentale pour la vie sociale. Il peut y avoir un certain nombre de règles qui sont religieuses d'un certain point de vue, qui peuvent être prouvées comme nécessaires et sur lesquelles on peut s'entendre. Mais pour le reste, le probable, elle dépend fondamentalement d'une révélation et d'une croyance. Et sur ces points-là, il faut accepter tout ce qui peut se présenter et ne pas donner aux politiques le pouvoir de légiférer en la matière. Ce qui me semble important pour conclure ce dernier point, les arguments en faveur de la tolérance, c'est ce sur le quoi on insiste actuellement et ce sur quoi Dominique Avon a écrit cet énorme livre pour en faire l'histoire, sur la liberté de conscience. Alors, j'avais prévu trop large, je ne vais pas refaire le détail de ces conditions dans lesquelles la liberté de conscience a été imaginé au départ, mais il s'agissait de quelque chose qui était immédiatement découvert. La conscience est ce qui nous branche, disait-on dans l'ordre classique, immédiatement sur la divinité. C'est la lumière de Dieu en nous, c'est la perception immédiate des premiers principes, c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé. Les analyses contemporaines, on reprend un certain nombre de ces points avec un vocabulaire un peu plus technique et qui me semble plus abordable finalement parce qu'on entre dans la conception. Toute conscience est d'abord authentique. La conscience individuelle est sincère et ne peut pas être refusée. Je sens que telle chose est immorale ou j'ai conscience que tel point est fondamental, je ne peux pas le contester. Vous pensez ça, vous avez conscience de cela, c'est votre droit, aucun argument ne peut être donné contre cette affirmation-là. La conscience est le point de départ de toute interprétation et de toute pensée ultérieure. Deuxième affirmation qui en tire la conséquence, je ne peux pas me forcer à croire quelque chose, je peux vous écouter. Vous pouvez essayer de me convaincre qu'il y a trois dieux ou qu'il n'y en a qu'un seul, que vous me convainquez qu'il n'y a pas de dieu et qu'il y a un grand tout, un grand rien, mais tous vos arguments n'auront pas de pouvoir parce que je ne peux pas me forcer à croire autrement que ce que je crois. Ce dont j'ai conscience s'impose à moi et tout ce que vous pourrez me dire ne me pourra pas me faire changer parce que moi-même je ne pourrai pas me mobiliser pour changer mes opinions. Comment voulez-vous vous forcer à croire quelque chose? Ce que l'on croit, ce à quoi on adhère, ce dont on a conscience, les jugements qu'on fait spontanément s'imposent d'eux-mêmes. Alors bien sûr, vous pouvez vous agenouiller, comme disait Pascal, vous pouvez prendre des habitudes, vous pouvez entrer, mais c'est tout un long cheminement qui est autre chose que l'ordre de la volonté. On entre dans une autre attitude de pratique dont on aura à reparler tout à l'heure. Et donc, si on n'a pas soi-même le pouvoir de se forcer à croire, de le vouloir croire, on ne peut pas le déléguer à un autre. On ne peut pas donner à un souverain le pouvoir de me contraindre. Parce que jamais il n'arrivera à me contraindre à croire quelque chose. Ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la dragonnade, ce n'est pas la force qui arrivera à me changer dans mes croyances. Je n'ai pas le pouvoir de changer mes croyances. Comment voulez-vous qu'un souverain ait ce pouvoir-là? Et enfin, la contrainte, par définition, est l'inverse de l'adhésion. Et tout ce que je pourrais dire sous la contrainte sera d'un autre ordre que ce à quoi je crois, que ce que ma conscience me fait penser. Il y a deux ordres différents et jamais aucun des deux ne pourront être compatibles. J'en viens en conclusion aux enseignements contemporains que je pourrais en tirer et qui sont soumis à votre échange. Distinction du civil et du religieux dont on a vu qu'elle était fondamentale, qui est réalisée en France sous la forme de la laïcité, qui a l'avantage d'instituer la distinction du religieux et du politique. Et non, ça ne reste pas dans un domaine moral individuel, ce qui manquait dans la conscience individuelle, ce qui aussi fait passer la tolérance à un stade de neutralité. C'est-à-dire, ce n'est pas le majoritaire, la religion majoritaire qui autorise les minoritaires à exister, mais c'est l'équivalence de toute croyance ou la possibilité de ne pas croire. et la possibilité d'exercer tous les rites. Elle est neutre socialement, ce qui est un immense avantage. Elle institue même une préservation des droits de rendre un culte. Elle s'occupe exclusivement de la sécurité civile en neutralisant l'ensemble des religions, mais en les permettant. Mais l'inconvénient de cette conception française de la neutralité de la laïcité, qui est la condition politique de base, c'est qu'elle ne prend pas en charge la dimension sociale. À mon sens, nous sommes là pour en discuter, hein. Je prends une thèse, mais qui s'inspire, à mon avis, de ce qui précède. La laïcité risque d'oublier la fonction sociale du politique. C'est pour le bien même du politique, me semble-t-il, qu'il faut introduire une dimension sociale qui existait déjà auparavant. Je veux dire par là que le politique est aussi en charge du consensus social. Et dans le consensus social, il est indispensable que les conceptions de la vie soient discutées entre les personnes. Qu'elles ne soient pas tues, mais qu'elles soient exposées et confrontées. Il y a un idéal actuel de la société qui vaut dans la plupart des philosophies, dans la plupart des conceptions. L'État devrait s'occuper uniquement du juste, c'est-à-dire d'établir des lois qui donnent les conditions de la vie sociale. Et on se met d'accord sur des conditions de la justice. Et on ne s'occupe pas du tout du bien, parce qu'il n'y a pas de bien qui serait commun à un État. La raison pour laquelle ces thèses sont défendues en philosophie, c'est qu'on a trop subi les conséquences de tous ces États qui, en fait, étaient religieux, qui voulaient définir le bien de la société, que ce soit les religions catholiques, protestantes, islamiques ou du marxisme. À définir, si un État s'occupe du bien, il est tyrannique, parce qu'il impose sa conception du bien. Mais du coup, on a tiré la conséquence qui, me semble-t-il, va trop loin, c'est que du coup, le bien serait exclu de la préoccupation du politique et que le politique n'aurait plus à s'occuper du bien. Or, je crois qu'il n'a pas à s'occuper, il a encore à s'occuper du bien, non pas pour le définir, mais pour le rendre possible, pour rendre possible sa recherche. C'est-à-dire pour mettre en débat la façon dont toutes les personnes d'une même société s'intéressent au bien commun. Je ne parle pas de grandes questions théoriques, mais est-ce qu'il faut mettre un centre social à cet endroit-là? Est-ce qu'il faut faire une quête pour l'Ukraine? Ça implique des conceptions différentes du bien. Et mettre en débat ces questions-là, ce n'est pas seulement mettre en débat des lois, c'est mettre en débat des conceptions que chacun a de ce pourquoi ils sont dans cette société, pourquoi ils sont sur Terre. Et à partir de leurs conceptions religieuses, sans doute qu'ils n'ont pas à apparaître dans le débat, à partir de ces conceptions religieuses, ils ont des conceptions du bien commun à cette société-là à défendre. Et il revient, me semble-t-il, à la politique, à l'État, d'organiser la possibilité de ce débat autour du bien commun. Et donc les religions reviennent de ce point de vue-là, non pas comme façon de faire de la propagande, de façon de définir le bien commun, mais comme des sources pour chacun d'une recherche d'un bien commun et comme des sources d'un débat entre les personnes qui sont croyantes par ailleurs dans la définition du bien commun. Le politique est de ce fait, me semble-t-il, en charge d'un aspect du religieux, faciliter le dialogue, faire émerger la recherche d'un bien commun, expliciter les divergences. Car la démocratie, à mon sens, c'est l'acceptation d'un échange entre points de vue divergents à l'intérieur même d'une société. Et donc, il y a nécessité d'un cadre, d'un dialogue social où la raison doit être comprise non pas comme un raisonnement qui essaierait d'établir la vérité, mais comme la recherche d'une expression raisonnable des conséquences de mes convictions. Je crois en Dieu trinitaire, un Dieu unique, je crois en ceci ou en cela. Quelles sont les conséquences pratiques de cela? L'État doit permettre l'expression en termes compréhensibles par autrui. Vous n'êtes pas de ma même religion que moi. L'État doit permettre, permettre que je puisse discuter avec toi en termes que tu comprends, c'est ça que j'appelle raisonnable, de mes raisons de défendre telle position. Je suis pour ou contre l'avortement, en fonction des positions religieuses sans doute. Mais je dois énoncer en termes raisonnables, c'est-à-dire compréhensibles par quelqu'un d'autre qui n'est pas de ma secte, qui n'est pas de ma religion, ce pourquoi je défends l'avortement ou je suis contre l'avortement. De façon à ce qu'il puisse s'emparer de mes raisons et voir comment il les traduit dans sa conviction, sa religion, et il peut opposer d'autres arguments à partir de sa conception et de sa religion. Il revient à l'État de prendre en compte cette possibilité d'un dialogue. Car c'est ce qui constitue le champ social et qui permet un bien commun. C'est donc la défense d'un bien commun, certainement, mais pas d'un bien commun défini une fois pour toutes, mais la recherche d'un bien commun. Un bien commun qui ne sera jamais atteint. Parce qu'il suffit qu'un émigré ou un immigré, pardon, intervienne dans la société pour que la définition du bien commun soit bouleversée et qu'on ait à changer notre définition de notre bien commun parce qu'il y a une autre opinion qui vient d'entrer en jeu et dont il faut tenir compte. Nous sommes dans un endroit où... J'ai développé. Il faut tenir compte des expériences de chacun et pas seulement des raisons. Il faut les énoncer en termes audibles, audibles par autrui, c'est-à-dire en termes, ce que j'appelle raisonnables, tels que l'autre puisse l'entendre. Et donc nous sommes à ce moment-là dans une conception où la tolérance entre dans l'optique d'une transaction constante. Le bien commun n'est jamais défini, il est toujours cherché, chacun à partir de sa conviction, de sa religion, mais d'une sa religion énoncée en termes que l'autre peut saisir, en termes publics. En ce sens-là, en termes dont l'autre peut se saisir, parce qu'ils sont exprimés de façon compréhensible. Ces raisons et ces expériences, j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que les expériences entre eux aussi. J'ai fait l'expérience de la Shoah, j'ai fait l'expérience de la persécution, j'ai fait l'expérience de l'illumination tel aspect de ma vie. Ces éléments-là colorent mes raisons. Et je dois pouvoir les énoncer pour que l'autre comprenne à partir de où je parle. Et ce qui permet un dialogue. Je crois qu'à ce moment-là, il peut y avoir tolérance effective. Distinction des pouvoirs, mais prenant en compte la société et son jeu de recherche d'un bien commun. L'État doit permettre, s'il est bien organisateur de la société, il me semble qu'il doit permettre le débat à l'intérieur de la société, la discussion et l'échange. Je conclue. Excusez-moi, j'étais beaucoup trop long. Je vous laisse la parole.